Vous écoutez le podcast de Curieuses Idées. Toutes les deux semaines, on vous propose de partir à la rencontre d'une personne qui a choisi de poser une action personnelle, collective ou professionnelle différente. Un ensemble de graines que l'on dépose ici en espérant qu'ils nous permettent de cultiver notre diversité. Aujourd'hui, je vous invite à prendre une pause avec Julien Vidal, créateur du projet et auteur du livre « Ça commence par moi ». Julien nous parle de son parcours, de sa volonté de vivre de manière heureuse, égalitaire et durable, de la place du bonheur dans son quotidien, de respect de l'autre dans son unicité et d'exemplarité comme moteur de changement. On vous donne rendez-vous après l'épisode sur les réseaux sociaux de Curieuses Idées pour partager vos réactions. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de Curieuses Idées. Aujourd'hui, j'ai la chance de prendre une pause avec Julien. Bonjour Julien.
Bonjour.
Alors Julien, en fait, moi je l'ai rencontré par un de ces projets qui s'appelle « Ça commence par moi », que j'ai vu par les médias sociaux. On râle souvent, moi la première, sur les médias sociaux, mais ça nous permet de connecter avec des gens. Alors Julien, lui, se situe en France et on se parle ce matin en duplex. Alors Julien, est-ce que tu peux commencer par une présentation générale pour nos auditeurs ? Qui es-tu ?
Moi, c'est Julien, j'ai 33 ans, je vis effectivement à Paris, en France, même si je viens de Grenoble, donc des montagnes des Alpes. Je suis parti au début de ma carrière professionnelle à l'étranger, puisque je travaillais dans la solidarité internationale. J'ai notamment vécu 2 ans en Colombie, puis 2 ans aux Philippines. Je suis rentré en 2016 avec plein d'envie en France, mais surtout en me disant qu'est-ce que je fais, moi, face à tous les enjeux de notre époque, c'est-à-dire une répartition très, très, très inégalitaire des richesses et le dérèglement climatique qui est en train de nous frapper de plein fouet, et tout particulièrement les pays les plus pauvres déjà. Donc, comment je peux me mettre à balayer devant ma porte? C'est comme ça que j'ai lancé le projet « Ça commence par moi », qui fait qu'on se parle aujourd'hui.
Est-ce que ta formation professionnelle, elle t'amenait à ce type de métier? Genre, au départ, c'est quoi ta formation universitaire?
Oui, j'ai commencé par du droit et de la politique internationale. Bon, c'était un peu blabla, une sorte de Sciences Po. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et effectivement, j'ai terminé mes études par un master en gestion de l'humanitaire et analyse de crise. Voilà.
Ok, donc tu te destinais vraiment à travailler dans le milieu humanitaire, tes voyages. C'était pas une quête.
Milieu des ONG.
C'était vraiment dans un but professionnel. Ok, parfait. Puis donc, suite à ces, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des déclics? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces voyages-là qui ont fait que quand t'es, parce que tu aurais pu continuer à aider autrement en continuant au niveau des ONG. Pourquoi est-ce que t'as eu ce déclic de se dire, ok, ma façon d'aider, ça va être maintenant.
À travers mes études, j'ai eu ce sentiment que les inégalités sociales étaient la chose à laquelle, enfin la bataille à laquelle je voulais consacrer mon énergie, mon temps, à travers mon travail. Et si ce choix-là s'est confirmé en Colombie, puisque là-bas c'était vraiment 1% de la population qui possédait 99% des richesses, et moi j'accompagnais des gens, dans la périphérie de Bogota, donc vraiment dans les bidonvilles, et qui étaient payés une bouchée de pain pour travailler 10, 12, 15 heures par jour. Donc là-bas, il y avait vraiment une grande problématique de répartition des richesses. Et ben, je me suis rendu compte en Philippines qu'en fait, la merde de toutes les batailles, c'était la question du dérèglement climatique, de la chute de la biodiversité. On peut dire de manière très large tout ce dont on parle en ce moment, notamment avec le dernier rapport du GIEC qui fait état du réchauffement climatique et des dérèglements qui vont avec, en me disant que si on ne se préoccupait pas de ça, tout le reste n'avait pas de sens en fait, ou en tout cas avait un sens moindre. Et donc du coup, en rentrant des Philippines, c'est là où effectivement je me suis dit il faut que je travaille à ça, puisqu'aux Philippines, je me suis rendu compte de ce que ça voulait vraiment dire le dérèglement climatique là-bas. Il y a plus de typhons qu'il y a de lettres dans l'alphabet chaque année. J'arrivais juste après le typhon Haiyan, qui était à l'époque le plus rapide jamais mesuré de l'histoire des typhons, avec des vitesses de pointe à plus de 320 km/h. Il y a eu plus de 7000 morts, 22000 blessés, 1000 disparus. Enfin, t'imagines, c'est des chiffres qui sont absolument dantesques. Et donc, du coup, on rentre en France. Je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et ça tombe bien, nous, Français, nous, Occidentaux, nous sommes ceux qui polluons le plus, puisque nous avons, entre guillemets, imposé au monde notre système de surconsommation débridé, qui fait que d'autres personnes sont exploitées à l'autre bout de la planète, qui fait que le climat est en train de se dérégler. Et en plus, tout ça, pourquoi? Pour que nous soyons pessimistes, anxieux, tendus, et que chaque année, nous consommions plus d'antidépresseurs. Donc, à quoi bon? C'est comme ça que je me suis dit, et si, en fait, il y avait d'autres alternatives pour vivre de manière heureuse, mais aussi de manière égalitaire et durable, et si on avait dès aujourd'hui toutes les solutions à notre portée, et si participer à la construction d'un monde meilleur, ça commençait par moi.
Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu donc de ton projet? Ça commence
Et
par
ben
moi.
voilà. J'arrive, j'ai 30 ans, je suis en France, j'ai l'impression pour la première fois de rentrer dans l'âge adulte. J'imagine que toi, ça t'est déjà arrivé, les bonnes résolutions de début d'année, par exemple, où on rentre la rentrée de septembre, tiens, j'ai envie de me mettre à faire ça, de faire du sport. Moi, j'ai toujours eu envie d'apprendre le chinois, par exemple, de courir un triathlon, d'apprendre à jouer de l'harmonica ou du ukulélé. Ben, comme toutes les bonnes résolutions que j'avais jamais prises dans ma vie, je les ai abandonnées au bout de 2 semaines. Et avec cette idée de dire ça commence par moi, je mets en valeur, en cohérence mes valeurs et mon et mes actes au quotidien. Là, je me suis dit non, c'est trop important, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai lancé un site internet pour relater cette aventure qui était un peu folle, celle de dire j'adopte dans mon quotidien une nouvelle éco-action chaque jour pendant 1 an, soit au total 365 éco-actions, et je raconte quotidiennement cette aventure sur ce blog pour, et d'une, m'exposer sur internet et faire en sorte que mon entourage, mes amis, ma famille me disent au moindre loupé, eh tiens, t'as abandonné alors que pourtant tu t'étais engagé, donc tiens bon. Et de deux, pour essayer de tendre une main à tous ceux qui agissent déjà dans leur quotidien, que je ne connaissais pas, mais par la magie d'internet. Tout à l'heure, tu disais que de temps en temps, on reproche aux réseaux sociaux de nous prendre beaucoup de temps, et à la fois, quand c'est bien utilisé, ça peut aussi créer des ponts extraordinaires. Et j'avais envie d'être aidé, guidé par toutes ces personnes qui agissent déjà en France et qui avaient cheminé bien plus que moi. Et voilà, j'ai raconté toute cette aventure du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, pendant laquelle j'avais ce souci de balayer devant ma porte. Je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça, que 365 actions, elles existaient bien, bel et bien, et qui, même si j'avais voulu, j'aurais pu en tester 365 nouvelles. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où ce ne sont pas les solutions qui manquent, et on n'a pas besoin d'inventer une nouvelle voiture électrique ou une nouvelle machine pour capter du CO2. On a toutes les solutions dès aujourd'hui dans notre quotidien. Je me suis rendu compte en plus que j'avais réussi drastiquement à réduire mon empreinte carbone, pardon, en divisant par 5 le nombre de CO2, de kilos de CO2, de tonnes de CO2 que j'émets chaque année. Imagine, un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Moi, j'en émets plus que 2. On a le jour du dépassement qui était le 1er août 2018 cette année. Et ben, si tout le monde vivait comme des Français, on aurait besoin de quasiment 3 planètes. Si tout le monde vivait à la sauce, ça commence par moi, on va dire, on aurait besoin de 0,8 planètes. Ce à quoi je m'attendais pas, c'est que j'ai en plus fait 300 € d'économie par mois grâce à toutes ces bonnes pratiques qui en fait sont vertueuses pour la planète, pour le porte-monnaie, et surtout que je consommais mieux. Je consommais moins de choses, mais de meilleure qualité, des aliments de meilleur goût, bio, meilleurs pour ma santé, et que, mis bout à bout, toutes ces actions que j'enchaînais au quotidien, en fait, elles me rendaient beaucoup plus heureux. Et c'est ça, en fait, la vraie trouvaille de cette aventure, ça commence par moi, c'est-à-dire que là où je pensais naïvement sauver la planète, on entend beaucoup un peu ça en ce moment, on va sauver la planète, on va sauver la planète, ça veut rien dire. Sauver la planète, elle existait avant nous, la planète, elle existera après nous. Mais on essaie de garantir les conditions pour que l'humanité continue à vivre de manière durable sur cette belle planète. Et en fait, en agissant dans son quotidien, par des actions toutes simples, on peut préserver le vivant dans son entièreté, la faune, la flore, mais aussi les autres êtres humains et surtout soi-même. Et ça me semble être hyper important. Voilà. Bon, comme d'hab, dès que je commence à parler de ça, je m'emballe et je raconte toute ma vie, mais c'est en gros l'idée qu'il y a eu sur Ça commence par moi qui a duré pendant 1 an. Et aujourd'hui, si vous allez faire un tour sur le site internet, vous verrez qu'il y a plus de 420 actions, puisque depuis le début de la deuxième année, ce sont idéalement d'autres personnes qui participent au projet en partageant leurs bonnes pratiques parce qu'elles sont avec un quotidien différent du mien. Moi, j'étais trentenaire à Paris à l'époque où j'ai raconté ça, en couple sans enfant. Mais il y a des retraités, des étudiants, des parents, des personnes qui ont des voitures, qui voyagent, qui vivent à l'étranger, qui ont aussi des occasions de faire des choses que moi, j'avais pas pu mettre en place dans mon quotidien. Et ça, je trouve que c'est génial de leur laisser la place de raconter ça.
Puis,
Allez, j'arrête de parler.
non, c'est parfait, sérieux. Puis moi,
Tu parlais, tu sais, on a tous des périodes, la période où on a des résolutions. Moi, je suis dans la période de ma vie où je suis en colère, puis j'essaye de calmer ma colère.
Ouais.
Donc, quand j'entends ce que tu dis, ça fait du bien parce que je pense effectivement, c'est qu'on n'a pas besoin de révolutionner le monde et qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont à portée de nos mains. Et moi, c'est ma phase actuellement justement de colère parce que j'aimerais que les gens réalisent à quel point il y a tellement de choses à portée de nos mains, puis qu'on n'est pas obligé d'être ingénieur dans je ne sais pas quel domaine pour réinventer une machine qui va nettoyer je ne sais pas quoi. Que profondément, en fait, notre façon de consommer et de vivre est le problème profond.
Bien sûr.
Mais donc, ça me parle beaucoup ce que tu dis, donc ça ne me dérange pas du tout. pour être allé un petit peu sur le site, il y a aussi plusieurs sphères, en fait. Parce que tu sais, souvent, quand on pense à nos actions, on va penser, OK, notre nourriture, qu'est-ce que je peux changer dans ma nourriture, dans mes déchets, dans ma façon de me déplacer. Ça, c'est des choses qui viennent... Mais il y a aussi une section que tu... La numéro 7, je vais la citer. La 7, la 9 et la 10. La 7, tu dis, je trouve un métier qui a du sens. En quoi est-ce que trouver un métier qui a du sens, pour toi, ça fait partie de la solution?
En fait... Je reviens un tout petit peu en arrière dans ta question, mais c'est vrai que quand je suis arrivé et qu'au début j'ai cherché des solutions, tout était en silo. C'était soit d'un côté les végétariens ou véganes, d'un autre côté les férus de mobilité douce, d'un autre côté les blogs où les gens étaient zéro déchet, zéro déchet, zéro déchet, d'autres où c'était slow, voire low technologie. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a envie de rassembler un peu tout ça? À quoi ça sert d'arrêter de manger de la viande et de rouler dans un énorme 4x4 et de partir en vacances pour un oui et pour un non et prendre l'avion pour 2 jours à Venise? Je me suis posé cette question-là et donc j'ai essayé d'être un peu plus global. Et c'est génial parce que ça m'a permis de commencer à me poser des questions dans toutes les sphères de mon quotidien. Donc au début, forcément, chez toi, qu'est-ce qui se passe? Les économies d'énergie, d'eau, de gaz, et puis ensuite, comment on peut avoir nos objets, nos vêtements, tout ça, qui sont finalement des choses assez classiques. Mais ensuite, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'autres sphères de mon quotidien qui avaient un impact énorme que je ne soupçonnais pas. Tu parlais du travail, mais c'est vrai ça. Comment on fait pour... Enfin, le travail, maintenant, on y dédie quasiment la majorité de nos vies. Et comment faire pour avoir du sens dans ce quotidien? Est-ce qu'on est tous obligés de travailler, je dis n'importe quoi, à Greenpeace, dans une ONG environnementale, au jour de la Terre, ou d'être ingénieur, comme tu disais, et d'inventer des nouvelles machines? Non, il y a d'autres manières de donner du sens à son travail, en accompagnant des jeunes, en accompagnant des gens qui sont éloignés de l'emploi, en partageant son savoir, ou même en mettant en place toutes ces petites habitudes économiques dans son quotidien. Mais aussi, je me suis rendu compte de l'impact d'Internet, par exemple. Si Internet, c'était un pays, ce serait le 6e consommateur d'électricité mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté de notre boîte mail? Qu'est-ce qu'on fait du côté des vidéos qu'on consomme sur Internet? Tout ça, c'est pas rien. Et pire encore, notre argent. Notre argent, on le met dans des banques qui ont tout un impact gigantesque sur la planète. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au début, ça fait un peu peur parce qu'on en vient à questionner tout ce qu'on pense être dans la vie. Mais en fait, les choses qu'on fait, c'est pas les choses qu'on est. Et ça, je me suis rendu compte qu'au début, je définissais beaucoup qui j'étais par ma manière de consommer, ma manière de m'habiller et tout ça. Alors qu'en fait, j'ai arrêté au fur et à mesure de ça commence par moi d'être dans l'avoir et je suis rentré dans l'être. Je suis parce que j'ai des passions, parce que j'ai mon entourage, parce qu'il y a plein d'autres choses en fait. Et que c'est pas le fait de sortir ma carte bleue, qui me conditionne et qui me définit surtout. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte que j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Attends, j'étais en train de te dire, ça me reviendra.
Mais quand tu dis qu'on se définit pas par ce qu'on possède, fin de compte, mais par ce qu'on... Un des points, tu disais, c'est continuer à apprendre. Est-ce que le fait justement de continuer à apprendre, ça te permet justement de continuer le savoir, est-ce que ça permet la définition encore plus profonde de qui on est?
Il y a Idriss Aberkane qui dit que le savoir, enfin, on va rentrer dans une nouvelle économie, pas l'économie de la matière, mais l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Parce qu'effectivement, c'est la seule chose qui est infinie et qui peut s'échanger gratuitement et ou en lui donnant de la valeur, mais en tout cas qui n'a pas un impact négatif sur l'environnement. Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion. Effectivement, il faut d'abord accepter, et si je reviens, tu m'as fait retomber sur mes pattes, merci. Au fait de dire qu'on doit désapprendre complètement qui on est. Donc ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que toute notre vie, on a appris à être en compétition et à jeter n'importe quoi dès qu'on en avait assez pour acheter quelque chose de nouveau. Et au début, ça peut être un peu angoissant. Et en fait, avec Ça commence par moi, très vite, j'ai réussi à tourner ça comme un jeu, une enquête, mais positive. Et en me disant, Julien, il faut que tu acceptes que tu n'es pas parfait, tu ne seras jamais parfait. Et c'est pas grave, en fait. C'est même au contraire, c'est tant mieux. Parce que le fait de ne pas être parfait, ça te permet d'apprendre tous les jours. Et d'apprendre tous les jours, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller découvrir de nouvelles personnes inspirantes, de creuser des domaines dans lesquels on n'est pas à l'aise et de chaque jour avoir une bonne raison de se lever le matin, tu vois. Et ça, c'est en tout cas, moi, c'est ce qui me permet de me sentir plus vivant que jamais, de continuer encore et encore à apprendre. Et ça me fait vachement peur, les gens qui disent « Oui, mais moi, ça y est, c'est trop tard, on ne peut plus me changer, j'ai plus rien à apprendre. » Tu es dans ton quotidien, ton train-train, et t'en changes pas, et ça me terrorise. J'espère sincèrement que je serai jamais comme ça.
Non, mais ça me parle ce que tu dis sur le lâcher prise, sur la perfection. Moi, ça a été la naissance de mes enfants qui m'ont emmené à beaucoup, beaucoup me questionner, à arrêter de prendre des bonnes résolutions de nouvel an qui tiennent seulement 2 mois. Je me suis dit, ouais. OK, eux, ils vont vraiment être là sur la planète, donc c'est maintenant que ça change, puis ça change. Ouais. Mais forcément, au début, tu es dans une genre de quête de j'arrivais pas à accepter les échecs, quoi. C'était plus compliqué. Et puis en plus, ouais, tu fais partie de, comme tu dis, tout est en silo. Alors, pour avoir accès à de l'information, tu vas aller dans une communauté zéro déchet ou tu vas dans un groupe. Puis alors là, toi, tu te dis, oh punaise, moi, je suis pas capable de ça. J'ai encore acheté un paquet de cookies qui était emballé. Alors là, tu culpabilises. Tu te dis, OK, à quoi bon faire tous les efforts que je fais? Puis là, tu vois les personnes qui se trashent entre elles, puis qui se disent, ah, c'est trop nul, tu fais ça. Puis là, tu te dis, oh mon Dieu. Puis alors là, tu te dis, OK, bon, maintenant, moi, je veux plus utiliser ma voiture, je vais me déplacer qu'en vélo. Puis là, tu vois des gens, tu vas dans un groupe justement de slow mobilité. Puis, tu sais, c'est pareil. Donc, apprendre à être imparfait, mais à se dire.
C'est hyper dur de tout faire en même temps, en plus. Ouais.
Mais tu sais, c'est-à-dire la somme des choses qu'on fait. C'est qui on est plus important que notre, c'est que la quête de perfection, c'est.
Oui, et puis au-delà de ça, tu vois, moi j'avoue que j'ai jamais eu une éducation qui était sensiblement tournée vers l'écologie, tu vois. Et il y a des gens qui sont nés ou tout de suite pas mal de bonnes pratiques de zéro déchet ou le fait d'être végétarien ou le fait de tout faire à vélo, c'est évident. Bon bah très bien, et ben dans ce cas-là, ils sont beaucoup plus loin que moi. Mais en même temps, est-ce que c'est forcément mieux? Ou est-ce qu'au contraire, le fait de pas commencer de zéro, mais le fait de commencer d'assez loin et de s'approprier soi-même chacune de ses décisions, ça serait pas finalement une super opportunité? Et encore mieux, est-ce que finalement le plus important, c'est pas de se dire jusqu'où tu vas, mais à quelle vitesse tu avances, quoi, et continuer encore et encore et avancer? Je crois que c'est plutôt sur la question de la vitesse que sur la question de la distance.
Ouais, puis il y a toujours la phrase qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. T'sais. Donc il y a aussi le truc, si tout le monde on arrive à mettre en place un nombre peut-être plus restreint de choses, parce qu'individuellement on a des possibilités différentes, mais collectivement on ira plus loin.
Bien sûr.
Est-ce que tu peux nous dire un peu maintenant, ça fait 2 ans qu'existe, ça commence par moi.
Exactement. Oui, exactement.
Puis un petit point sur la situation, tu sais, qu'est-ce que ce choix de vie t'apporte actuellement et tu vis ça comment après 2 ans?
On me demande souvent, c'est vrai, si je continue à appliquer les 365 actions et compagnie. En fait, c'est dingue parce que c'est devenu complètement mon quotidien et donc j'y pense même plus. Aujourd'hui, 99% des choses que j'ai appliquées à travers ce projet de Ça commence par moi, ça fait partie de ma vie et c'est une évidence. Et y a même plein de nouvelles actions que j'ai apprises, que j'ai mises dans mon quotidien depuis, et que d'autres encore que j'ai envie de tester, d'adopter, plein de nouvelles choses à changer. C'est génial, c'est en constante évolution ce domaine en plus. En ce moment, ça fait beaucoup de parler de lui. Il y a beaucoup de sorties, de nouveautés, de trouvailles, de réinventions, et ça c'est génial. Et moi, depuis en fait, j'ai adoré cette première année sur Internet, de me raconter, d'échanger les bonnes pratiques, et à la fois je trouve qu'Internet c'est bien pour créer une étincelle, mais pour vraiment accompagner le changement dans la durée, je préfère la vraie vie. Et du coup je me suis mis à plein temps sur le projet Ça commence par moi. J'ai créé une association et aujourd'hui on anime des conférences, des ateliers, des débats dans des tiers-lieux pour le grand public, pour les jeunes, dans les écoles, pour les professionnels dans les entreprises, de manière à vraiment accélérer cette transition en fluidifiant le, le discours par rapport à ça, parce que je me rends compte qu'encore souvent, quand t'es écolo, t'as pas trop envie d'en parler, t'oses pas trop, t'as un peu peur d'être catalogué comme le mouton noir. Du coup, je crois que d'arriver, de mettre un peu les pieds dans le plat, de dire, bah, regardez, moi, je suis pas parfait, à la fois, j'ai quand même bien avancé, en étant optimiste, en montrant la joie qu'il y a derrière ça, que si moi, je l'ai fait et que je suis vraiment un monsieur tout le monde, bah, tout le monde peut le faire. Je crois que ça accélère vachement les choses. Et voilà, c'est ce que je fais, c'est ce que je fais maintenant. Et c'est assez dingue parce que du coup, je suis tellement en ce moment dans le moment présent à vivre ça, à rencontrer des gens inspirants, que je sais pas trop ce que je veux faire l'année prochaine. Je dis juste un peu oui à ce qu'on me propose. Donc l'année dernière, tu vois, on m'a dit, ah bah tu devrais animer une émission de radio. Bon bah allez, vas-y, j'anime une émission de radio. Ça s'appelle Ça commence par moi l'émission. On a reçu 30 invités, c'était génial, des podcasts maintenant qui sont sur internet, tout ça. Enfin, c'était passionnant de rencontrer ces gens-là. Et puis après, on m'a dit, ah bah tu devrais écrire un livre. J'avais commencé à écrire 30 pages dans un coin. Et puis voilà, comment est sorti ce livre au seuil là en septembre dernier. Et c'était une autre aventure absolument extraordinaire. Donc ça rejoint aussi le lâcher prise dont tu parlais tout à l'heure, tu vois, de pas trop se projeter, de plus être au moment présent en se disant je fais des choses qui me passionnent, je sais pas forcément le comment, mais le pourquoi il est très clair, et ça je le garde précieusement, et j'avance par rapport à ça, quoi.
Est-ce que là j'ai une question qui, si tu me dis, c'est des trous personnels, mais est-ce que le détachement de la valeur du travail par rapport à son association de valeur financière permet aussi d'avoir ce mode de vie là?
Alors tu vas voir, moi je me rends compte avec toi que je réponds toujours un peu à côté de ta question, mais l'intention est là. Qu'est-ce qu'on a tous envie de faire dans la vie? Qu'est-ce qu'on a tous en commun? On a tous envie d'être heureux, tu vois. Je crois que c'est la seule chose qui est universelle chez l'être humain. On a envie d'être heureux. Alors malheureusement, de plus en plus dans nos sociétés occidentalisées, cette envie d'être heureux, elle a été transformée par une peur, ou enfin une envie de ne pas être malheureux. C'est un peu triste, mais c'est devenu ça. Et à la fois, donc, du coup, cette envie d'être heureux, bah, elle se traduit en fonction des personnes par l'envie d'être aimé, l'envie d'avoir une position sociale élevée, du pouvoir, de l'autorité, d'être reconnu, l'envie d'exprimer son art, l'envie d'avoir de l'argent, d'avoir des biens. Et donc, je crois que c'est après seulement la question de la traduction. Et donc, cette histoire d'argent dont tu parlais, c'est finalement de se dire que tu as de l'argent et donc du coup que tu es reconnu, que tu as de l'autorité et que en plus du coup matériellement tu vas être suffisamment bien dans ta vie pour vivre avec de la sécurité, en plus avec des voisins qui te regardent en disant ah quelle réussite, donc un peu cette jalousie qui fait mousser. Mais finalement c'est ça, tu vois. Donc moi, à partir du moment où je me suis rendu compte que ce qui me rendait vraiment heureux, c'était de passer du temps avec les gens que j'aimais, de poursuivre mes passions et de continuer à participer à cette transition éco-citoyenne qu'on est en train de vivre maintenant, ben en fait, je me suis rendu compte que du coup, j'allais plus dans les magasins, je m'achète plus de fringues, je me suis rendu compte que pour partir en vacances, c'était pas forcément lié à payer des billets à une fortune pour partir à l'autre bout de la planète, mais qu'en fait, on pouvait le faire à côté de chez soi et que ça coûtait beaucoup moins cher. Et je me suis comme ça, petit à petit, sans le vouloir, tu vois, mais retiré de l'économie libérale, quoi, de la surconsommation, parce qu'en fait ça me procurait pas de bonheur, et que dès que j'achetais quelque chose, je me disais mais attends, en fait lui il l'a mieux, lui il a différent, puis il y a quelque chose de nouveau qui est sorti, puis en fait ça me procurait presque du malheur, tu vois. C'était du bonheur comme quand tu vas dans un fast-food, tu manges, t'es content pendant une heure, une demi-heure, puis au bout d'un moment tu te dis ah j'ai mal au ventre, ou j'ai faim, ou oh c'était pas si bon que ça, et puis voilà, et t'oublies un peu, puis tu retournes après, mais en fait jamais t'es vraiment profondément heureux. Comme quand tu passes un moment avec ta famille à faire un vrai repas de famille où tu prends le temps d'être avec les gens, c'est ça qui compte le plus. Donc du coup, effectivement, à partir du moment où l'argent pour moi c'est pas ce qui me rend heureux et que j'arrive suffisamment à en avoir pour pas m'embêter, eh ben j'avoue que c'est plus un outil qu'une finalité, quoi.
Et donc ça laisse la liberté au projet d'arriver.
Exactement. Et en plus, du coup, j'arrive à vivre à Paris. Enfin, au début du lancement de l'association, je vivais à Paris avec 1000 euros par mois. Bah, 1000 euros, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, ça m'allait très bien, tu vois.
Excuse-moi, voilà. je reste BA parce que je reste comme un poisson hors de l'eau, mais parce que ça me parle beaucoup. Parce que le temps a tellement plus de valeur que l'argent, mais malheureusement, nos sociétés valorisent le travail, la position sociale et le gain financier qui va avec c'est quoi l'impact réel de ce que tu fais au quotidien dans ton entourage et dans le bonheur des gens qui t'entourent et le tien.
Tu as lu le livre No Impact Man de Colin Beaven, l'américain? Non, ça dit rien. C'est un gars qui a fait. Il m'a vachement inspiré au moment de lancer le défi. Ça commence par moi. Lui, son objectif en annonce, c'était d'avoir une émission carbone de zéro. Il était journaliste, peut-être qu'il l'a encore d'ailleurs, journaliste à New York. Et en fait, il se rendait compte qu'il travaillait 10-12 heures par jour et qu'il acceptait le boulot pour ensuite pouvoir rentrer chez lui et s'acheter des plats à emporter. Et puis, il ne voyait pas trop sa fille. Et puis, tout ça. Et puis, à un moment, il a dit, mais et si je travaillais moins, que je faisais plus de choses moi-même, mais que je passais plus de temps avec les gens que j'aimais. Et en fait, comme ça, il s'est rendu compte qu'en travaillant moins, il avait plus de temps pour se faire manger, donc du coup, dépenser moins et de meilleure qualité, passer du temps avec les gens qu'il aimait. Et en fait, du coup, il se rendait compte qu'il travaillait pour rien. En fait, il disait, mais je mets mon temps pour améliorer ma qualité de vie, mais en fait, je perds mon temps. Tu vois, ça est aussi lié à l'étude, le parallèle de Esterlin, ça s'appelle. Et ça montre en fait qu'au-delà d'un certain seuil, il s'avère que c'est environ 15 000 euros de salaire par an. Au-delà de 15 000 euros de salaire par an, la courbe du bonheur est décorrélée de la courbe du salaire. Donc, plus tu gagnes, et forcément, ça ne sera pas forcément plus t'es heureux, quoi. Et donc, du coup, tu te retrouves comme ça avec des pays comme le Paraguay, par exemple, où les gens sont plus heureux et pourtant bien moins riches que d'autres pays comme le Luxembourg ou les États-Unis.
Ce qui est délicat là-dedans, et puis ça va m'amener à ma prochaine question. C'est, tu disais que toi, tu n'es pas né avec une éducation très écologique. Voilà. Mais souvent, dans le changement, tu sais, par exemple, comme tu es le journaliste américain ou des changements de vie, là, je vais y aller avec le tien, avec ce que tu as fait, c'est comment ton entourage y réagit, tu sais, souvent, c'est ça la partie délicate. Ils ont réagi comment, les gens, ta famille autour de toi ou tes amis sur ton entourage?
J'étais toujours le mouton noir de ma famille. J'étais l'empêcheur de tourner en rond, celui à côté avec qui on n'avait pas envie de s'asseoir pendant les repas de famille, justement, parce que j'étais tout le temps à monter sur mes grands chevaux, à accuser les gens, à les pointer du doigt. C'était pas très agréable, je pense, de parler avec moi, parce que je faisais un peu le mec qui luttait pour toutes les causes et qui savait pas trop quoi dire et qui mélangeait un peu tout. Et depuis que j'ai lancé Ça commence par moi, je me suis promis de plus jamais essayer de changer les gens. J'ai lu cette phrase qui m'a beaucoup parlé, qui dit que l'expérience est une lumière qui n'éclaire que celui qui l'apporte. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, c'est vrai que moi, il y a des choses que j'ai vécues qui me paraissent évidentes, mais pour d'autres personnes, ça leur paraît pas évident. Et peut-être qu'en plus, ils le comprendraient différemment s'ils le vivaient, ou peut-être que ça leur parlerait pas du tout. Et en fait, c'est comme ça. Et c'est pas parce que eux, ça leur parle pas que moi, j'ai le droit de me sentir supérieur par rapport à ça. C'est faux. On a tous une compréhension du monde qui est unique, qui est la nôtre. Et il faut respecter chaque personne dans son unicité, dans son entièreté. Et paradoxalement, depuis que j'ai arrêté d'essayer de changer les gens, changer mon entourage, je l'ai jamais autant changé. Parce que je suis dans l'exemplarité et surtout, je suis heureux de faire ce que je fais. Et du coup, les gens autour de toi, quand ils voient que tu es heureux, ça les interroge. Et donc, du coup, ils se disent, mais attends, c'est bizarre. Pourquoi t'es heureux? Attends, t'as testé ça? Attends, je t'ai vu faire ça. Raconte-moi. Et donc, du coup, c'est eux qui posent la question. Et donc, ils posent la question et mettent le sujet sur la table. Et après, c'est vachement plus facile pour essayer d'exposer au moins son cas sans forcément essayer de les convaincre. Parce que c'est pas la question de les convaincre. C'est juste la question de dire, regarde, moi, je fais ça, ça me rend vachement heureux. Essaye. Et puis, de l'autre côté, ça veut aussi dire que moi, j'accepte vachement plus maintenant qu'on me dit, mais attends, j'ai vu que tu faisais ça. C'est pas parfait. Ou là, ce que tu fais, c'est même pas bien, je te recommande de faire ça. Ben ouais, t'as raison. Je suis pas parfait et j'accepte que tu me fasses des suggestions, et si ça m'aide à m'améliorer, je te remercie. Donc ça a pris du temps, hein. Je te dis ça maintenant avec du recul et de la légèreté, mais ça a pris beaucoup de temps, hein. C'était difficile, mais maintenant, c'est incroyable. La dernière fois que mon père il est venu, enfin mes parents ils sont venus à Paris pour nous rendre visite, le premier truc que mon père m'a dit, c'est « Ah, j'ai entendu qu'il y avait une boutique zéro déchet qui avait ouvert à côté de chez toi, est-ce qu'on peut pas y aller, quoi ?» Et mon père, il était à des milliers de kilomètres de ces histoires de zéro déchet il y a quelques mois, quelques années encore, quoi. Donc ça montre que ça marche. Ouais, c'est ça. Ça montre que ça marche. C'est assez dingue.
Et maintenant, je vais passer aux questions classiques de curiosité, si tu es d'accord.
Vas-y. Bien sûr.
Alors, la première, c'est la question flashback. Alors, on imagine que Julien, d'il y a 15 ans, il est assis à côté de toi sur le canapé.
Ouais.
D'après toi, est-ce qu'il serait surpris de la personne que tu es devenue?
Je crois que oui. Oui, je crois que oui. Je crois que oui. Il y a 15 ans, j'avais 18 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. J'avais aucune idée. J'avais l'impression de... de faire les choses plus par dépit, par défaut, que par réelle conviction. J'avais l'impression de pas avoir vraiment de passion. Et oui, j'avais cette envie, cette idée du journalisme, de la solidarité internationale, mais ça restait très confus. Et là, de voir maintenant, je crois que s'ils me voyaient maintenant comme je suis acteur de ma vie, comme je suis heureux de faire ce que je fais, l'énergie que j'ai, la confiance en moi que j'ai obtenue grâce à toutes ces dernières expériences, ça serait, je crois que ça surprendrait beaucoup. Ouais.
C'est dommage que les auditeurs n'ont pas ton visage en même temps que ta voix, parce que
ouais.
C'était intéressant.
Non, c'est dingue, c'est une bonne question, on ne l'a jamais posée.
Puis maintenant, on va passer sans transition.
Ouais. Non, mais j'ai pensé encore longtemps à ta question. C'est... Ouais.
Elle résonne assez ouais. Longtemps. Ça me fait même, moi, à chaque fois qu'on la pose à nos invités, d'entendre les réponses de nos invités, à chaque fois, nous, on se reprojette
ben
aussi.
Oui.
Ça fait, mais c'est un bel exercice. Moi, maintenant, je le fais plus souvent. Et des fois, ça me fait du bien quand on met trop en doute des choses ou qu'on est trop dur avec soi-même.
Ben oui.
Je me dis, OK, mais ton toi du passé, qu'est-ce qu'il penserait de toi aujourd'hui? Puis je me dis, OK, mais il me trouverait forte de certaines choses ou il serait fier de certaines choses. Puis en même temps, tu sais, des fois, ça aide aussi à avancer. Des fois, on est trop difficile avec nous-mêmes.
Je suis d'accord avec toi, on est tout le temps difficile avec nous-mêmes, trop.
Maintenant, on va passer à la dernière question avant de conclure cet épisode. C'est la question de l'invité passé. Alors, nous, notre invité d'avant, donc, c'était Vicky Pedneau. Alors, elle est québécoise. Elle est un entrepreneur et elle a créé la Baleine Nomade, en fait. Donc, elle est passionnée des mammifères marins. Elle a étudié en sciences et elle a souhaité, en fait, faire passer les problématiques des mammifères marins ici dans le fleuve du Saint-Laurent, mais en utilisant une autre de ses passions qui était l'humour. Donc, elle est du stand-up. D'accord. Et elle a décidé, elle, de mixer les deux. Et maintenant, elle fait des conférences dans les écoles, auprès des enfants, mais aussi auprès des adultes, en utilisant le véhicule de l'humour
D'accord.
pour éveiller les gens, en fait, face à des enjeux de protection des mammifères marins. Voilà la question qu'elle te pose. Si tu pouvais emprunter une capacité, un super pouvoir, à un animal, ce serait quoi et pourquoi?
C'est une super bonne question. Je sais pas trop jusqu'à quel point c'est un super pouvoir, mais... Mais aux Philippines, j'ai découvert le monde extraordinaire de la plongée. Du coup, si j'avais un super pouvoir, ou en tout cas le pouvoir de rester sous l'eau beaucoup plus longtemps, voilà, c'est ça, respirer sous l'eau, ça, j'avoue que je m'en priverais pas. Et même si on dit que maintenant les océans sont de plus en plus pollués, et je sais qu'il y a encore des endroits qui sont absolument magnifiques. Et je trouve que la vie marine, elle est tellement belle et tellement méconnue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas idée à quel point c'est important de la préserver. Mais je crois que je passerai longtemps à faire ça. J'aurais pu dire dans l'autre sens que le super pouvoir serait été, parce que quand j'étais enfant, mon animal préféré, c'était le faucon pèlerin, qui est un oiseau qui peut aller hyper vite en piqué comme ça. Et donc, ça aurait été de voler aussi vite que le faucon pèlerin. Mais je crois que maintenant, là, j'aurais plutôt envie d'aller voir ce qui se passe sous l'eau plutôt que de voir ce qui se passe dans les airs. Ouais.
Ben écoute, ben merci beaucoup Julien pour ce moment passé ensemble. Ensemble, nous on a discuté, mais je sais que ton livre va sortir bientôt au Québec. Est-ce qu'il y a une date déjà de fixer?
Tout à fait, il sort à la mi-octobre, le okay. 16 octobre si je dis pas de bêtises.
Ok, parfait. Alors on mettra tous les liens sur notre site web, génial. Vers ton livre, le podcast de l'émission de radio que tu as fait, on mettra les liens aussi, ainsi que le site web bien entendu de Ça commence par moi pour que nos éditeurs puissent aller s'y référer.
Génial.
On se quitte en se disant que on a tous le droit d'être imparfait et que l'essentiel dans la vie, c'est le bonheur.
Oui.
Et on se quitte avec ça, ça te va?
Ça me va bien, je suis tout à fait d'accord.
Parfait, alors merci beaucoup pour le temps accordé et puis à très bientôt.
Merci pour tes super questions, à bientôt.
Et voilà, le 37e épisode est maintenant terminé. Il a été enregistré en duplex de France à Québec. Merci Julien pour cet échange plein d'équilibre. Et merci à vous les auditeurs pour votre fidélité. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un message sur notre site web curiosidées-sans-accent.com, un avis et des étoiles sur notre chaîne iTunes ou tout simplement en le partageant auprès de vos amis. Vos commentaires et vos partages sont vraiment notre meilleur soutien. Et pour ne rien manquer de notre actualité, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux ou vous abonner à notre infolettre. Cet épisode a été produit par l'équipe de Curiosités à Québec, Clémentine et Aurélie. On se retrouve dans 2 semaines.